de redécouvrir l'histoire de Cendrillon et sa fameuse pantoufle de verre. Un conte qui date de l'Antiquité et qui depuis a été plus de 300 fois revisité. Une Cendrillon meurtrière, des doigts de pied que l'on coupe, des oiseaux qui crèvent les yeux, des méchantes belles-sœurs, le conte de fées que vous pensiez connaître n'a pas toujours été ce qu'il est. Parents et enfants, je vous invite à écouter le beau conte de Cendrillon tel qu'on l'a découvert dans le long métrage d'un certain Walt Disney. Restez avec nous ensuite pour notre interview vérité avec nos experts qui nous diront tout sur l'histoire surprenante de Cendrillon. Une fois, une jeune fille noble qui, après la mort de son père, se vit reléguée par sa belle-mère au rôle de servante dans sa propre maison. Toute la journée, elle était persécutée par ses cruels marâtres et ses deux filles, aussi laides que méchantes. Javotte et Anastasie, jalouses de la beauté de leur demi-sœur, ces dernières l'avaient surnommée Cendrillon. Cendrillon parce qu'elle dormait devant la cheminée de la cuisine et était donc recouverte de cendres. Mais malgré ses vêtements rapiécés et son visage sale, Cendrillon était belle et douce et s'occupait de toutes les tâches ingrates de la maison sans jamais se plaindre. Car au fond d'elle-même, elle savait qu'un jour, un beau prince charmant viendrait la chercher sur son cheval blanc.
Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs, au creux de la nuit, habillent nos chagrins.
Voilà justement les deux belles-sœurs avec leur gros nez et leur vilaine manière.
Tu peux toujours rêver de prince et de sato, souillon,
cracha Javotte.
Rien de bon ne t'arrivera. Tu ne ressembles à rien. Dis-lui qu'on l'accepte sous notre toit,
enchérit Anastasie.
Qu'est-ce qu'elle est sale! Allez, mets-toi au travail, Cendrillon. Et ne lambine pas, la maison est aussi sale que toi. Allons, venez, ma sœur. Notre professeur de musique et de chant nous attend.
La la bémol, chantre, signal, chante, chantre, signal, chante.
Eh bien, allons-y, s'exclama Cendrillon, en retroussant ses manches et en brandissant son balai. Car si je ne termine pas de nettoyer cette maison de fond en comble, de repasser toutes les robes de mes sœurs et de faire toute la vaisselle, mère ne manquera pas de me trouver quelques punitions cinglantes.
Cendrillon!
Enfin, mais qui m'appelle?
C'est moi, ton ami à plumes!
Cendrillon remarqua alors le minuscule moineau perché sur une des poutres du plafond. Il portait une petite cape bleue et un petit chapeau bleu.
Je vais t'aider!
Lança l'oiseau avant de venir se poser sur l'épaule de Cendrillon.
Oh, tu es très gentil, petit ami, mais je ne vois pas comment. Je vais appeler les souris!
Il siffle plus fort. De chaque recoin de la pièce surgirent de petites souris brunes, grises ou blanches, toutes vêtues de chemisettes, de robes, de petits bonnets et de petits chaussons.
Voilà, voilà, nous sommes là,
s'exclama la souricus.
Oh bah, vous avez besoin de nous, visiblement. Cet endroit mérite un bon coup de balai et nous n'allons pas laisser ces vilaines femmes te casser la journée tout de même.
Oh, merci mes amis. Tous ensemble, je suis sûr que nous y arriverons. Toute la journée, souris, oiseaux et même le chien de la maison, Pato, brossèrent, récurèrent, balayèrent. Si bien que le soir venu, la maison brillait comme un sou neuf aux grand dames de la méchante marâtre. Quelque temps plus tard, le roi fit annoncer qu'il donnait un grand bal à la cour. Toutes les jeunes filles à marier du royaume y étaient conviées afin que son fils, le prince, se choisisse une épouse.
Pourrais-je venir ? Demanda Cendrillon à sa belle-mère. Certes, ma fille, si tu termines ton ménage et que tu trouves quelque chose de convenable à te mettre, je n'y vois pas d'inconvénient,
répondit la vilaine marâtre avec un sourire cruel. Cendrillon avait bien peu d'effet personnel, mais il lui restait une vieille robe qui appartenait à sa mère et un collier de perles. Je vais la raccommoder et l'arranger un peu. Mais elle n'avait pas fini sa phrase que les clochettes des chambres de sa belle-mère et de ses demi-sœurs se mirent à sonner.
Cendrillon ?
Cendrillon ?
Cendrillon ?
Cendrillon ? Oh, aujourd'hui, tu nettoieras à nouveau la maison de fond en comble, ordonna la marâtre.
Cendrillon ! Occupe-toi de repasser et de rafraîchir de tenue pour le bal,
exigea Javotte en lui lançant deux immenses robes de tulle et d'organdi, des souliers de satin et une dizaine de rubans.
Oh, et Cendrillon, aujourd'hui tu baigneras Lucifer,
lança Anastasie en caressant l'horrible gros chat de la maison. Le cœur gros, Cendrillon retourna dans sa cuisine, où elle fut bientôt entourée de tous ses petits amis à plumes et à poils. Eh bien, je pense que le bal se passera sans moi. Oh, j'aurais tellement aimé passer une soirée au château, rencontrer le prince. Ça va être féerique, j'en suis sûr.
Mais alors, vas-y,
répondit Gus. Mais, Gus, je n'aurai jamais le temps de raccommoder ma robe. Résigné, Cendrillon s'en alla accomplir ses tâches ménagères.
Oh, quelle mégère,
se fâcha Gus.
Vous verrez, elles feront tout pour l'empêcher d'aller au bal. Sa robe ne sera jamais prête.
Hey, on peut la faire, on peut la faire, on peut la faire. C'est pas forcé d'être du rien quand on a l'art et la manière. Ce n'est pas une affaire avec un dîner coquin.
C'est ainsi que souris et oiseaux se mirent à l'œuvre et raccommodèrent la vieille robe de Cendrillon en cachette. Quelle surprise pour Cendrillon quand elle découvrit sa robe le soir.
Oh, merci, merci, mes amis. Ah, je suis si touchée. Cette robe est encore plus jolie ainsi. Grâce à vous, je vais pouvoir aller au bal. Je suis si heureuse. Je vais de ce pas me préparer avant que mère et mes sœurs ne partent sans moi.
Mes filles, le carrosse est avancé. Partons, annonça la marâtre.
Attendez-moi, je suis prête,
leur cria Cendrillon, en dévalant gracieusement l'escalier du grand hall devant la mine effarée de ses trois parentes. Vertes, ou plutôt rouges de jalousie, Javotte et Anastasie ne purent se contenir et se jetèrent sur Cendrillon, lui déchirant sa belle robe et arrachant son collier de perles.
Tu n'aimes pas qu'on allait te laisser partir comme ça? Les châteaux, c'est fait pour les reines et les princesses, pas les souillons. Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait de la robe de ma mère et mon collier de perles?
Pauvre Cendrillon, impuissante et dévastée, il ne lui restait plus que les larmes pour pleurer. Tout ce travail, tous ses espoirs réduits à néant. La soirée, le château, le prince, elle ne connaîtrait rien de tout cela. Elle s'enfuit se réfugier dans le jardin.
C'est fini, je ne crois plus à rien. À rien.
C'est alors qu'une lumière scintilla dans la nuit. Une lumière qui devint de plus en plus grande et qui, approchant, révéla une silhouette étrangement familière. C'était une fée. Une belle et grande fée avec sa baguette magique. Et cette fée n'était autre que la marraine de Cendrillon, ayant assisté à toute la scène. Piquée par l'injustice dont sa pauvre filleule était victime, elle avait décidé qu'il était temps de faire appel à un peu de magie.
Vraiment ? Tu ne crois plus à rien ?
Si tu ne croyais plus à rien, je ne serais pas là. Ma chère enfant, non seulement tu iras à ce bal, mais tu seras la plus belle et ton équipage sera des plus fantastiques, lui dit-elle en brandissant sa baguette magique.
Salagadou, la Benchikabou, la bibidi bobidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bou. Salagadou, la Benchikabou, la bibidi bobidi bou.
En quelques tours de magie, la bonne fée changea une grosse citrouille en un carrosse féerique. Quelques souris, chiens et chevaux en fringants cochers et valets de pied. Et une Cendrillon en haillon, en magnifique princesse de conte de fées.
Oh, et regardez mes souliers, de vraies pantoufles de verre.
Les oiseaux et les souris étaient fous de joie.
Oh, c'est formidable,
s'écria Gus.
Cendrillon va passer une soirée exceptionnelle.
Allez, chère filleule, file et rappelle-toi, au 12e coup de minuit ce soir, tu retrouveras ton apparence de servante. Et le carrosse magique, étincelant de 1000 feux, disparut dans la nuit noire. Quelle apparition enchanteresse que cette magnifique jeune fille qui se présenta au château. Toute l'assistance en resta bouche bée, se demandant qui pouvait être cette gracieuse princesse qui glissait dans sa robe comme un cygne sur un lac. Le prince n'avait Dieu que pour elle, et il lui fit une cour des plus passionnées. Le roi, son père, notant le coup de foudre immédiat entre le prince et la mystérieuse jeune fille, ordonna qu'on lance les valses. Dansèrent tant et tant qu'ils en oublièrent l'heure, jusqu'à ce que sonne. Réalisant soudain que le charme serait rompu dans quelques instants, Cendrillon eut tout juste le temps de se libérer des bras du prince et de filer à bord de son carrosse magique. Elle et son équipage disparurent dans la nuit, laissant un prince désespéré de ne plus jamais retrouver sa belle inconnue. « Or, je ne sais même pas comment elle s'appelle, ni où elle habite !» se lamenta le prince. Mais qu'est-ce qui brille sur le tapis rouge de l'escalier ? Une des pantoufles de verre, si petite, si fine, si raffinée. Dans sa fuite, Cendrillon avait perdu un de ses souliers. « Eh bien, soit, j'épouserai la jeune fille qui aura le pied assez fin pour enfiler ce soulier !» s'exclama le prince. Que l'on fasse essayer cette pantoufle de verre à toutes les jeunes filles du royaume. C'est ainsi que le grand-duc et son valet, mandatés par le prince, se mirent en quête de retrouver la mystérieuse jeune fille. Les jours qui suivirent le bal, Cendrillon était d'humeur joyeuse et semblait, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, sur un petit nuage. Ce que ne manqua pas de remarquer sa méchante belle-mère. Et quand cette dernière apprit à toute la maisonnée que le prince épouserait celle qui parviendrait à chausser la pantoufle de verre, la mine réjouie de Cendrillon ne lui échappa pas. Si bien qu'elle commença à se douter que la jeune fille du bal et la souillon rêveuse en face d'elle pourraient bien être la même personne. Par un beau matin, le grand-duc, son valet et la pantoufle de verre se présentèrent enfin chez Cendrillon.
Mes hommages, chère madame, je suis missionné par le roi pour retrouver la personne qui parviendra à chausser cette minuscule pantoufle de verre. Alors, d'après mon registre, vous avez deux filles, n'est-ce pas ?
Oh, bien sûr, votre honneur, de magnifiques jeunes filles. Javotte, Anastasie, approchez.
Plus que sceptique, le grand-duc vit approcher les deux laidrons aux grands pieds. Par courtoisie, il leur fit néanmoins essayer la pantoufle de verre, mais rien n'y fit. Malgré les chausse-pieds, les deux mégères durent se faire une raison. Elles n'épouseraient jamais le prince.
Il me semble que vous avez également une belle fille,
continua le grand-duc, le nez à nouveau plongé dans son registre.
Non, monseigneur, elle nous a quittés. Il n'y a plus personne dans cette maison,
répondit la jalouse marâtre, qui avait pris grand soin d'enfermer Cendrillon dans la grande tour de la maison, sous la garde de son méchant chat Lucifer. C'est alors qu'un drôle de remue-ménage se fit entendre au niveau du plafond du salon. Comme un bruit de clé et les miaulements d'un chat courroucé.
Étrange que tout ce vacarme, madame,
s'étonna le grand-duc.
Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a personne d'autre dans la maison ?
Oh, grand Dieu, non ! Non, ce doit être Lucifer, notre chat, qui court après les souris. Mais reprenez vite votre route, votre honneur. Votre temps est précieux. Le grand-duc s'apprêtait à quitter la demeure quand il vit Cendrillon courir à lui, avec l'aide de ses petits amis. Cendrillon avait réussi à se libérer de la tour et à se débarrasser du méchant chat Lucifer.
« Attendez, attendez, monseigneur, puis-je également essayer la pantoufle ?»
Mais alors que l'enthousiaste valet du grand-duc se précipitait vers Cendrillon avec la pantoufle de verre, la vilaine marâtre lui fit un croche-pied. La pantoufle tomba et se brisa en mille morceaux.
« Oh, quelle catastrophe !»
s'exclama le grand-duc.
« Le roi et le prince, ils vont me faire couper la tête !»«
Ne vous inquiétez pas, monseigneur, »
répondit Cendrillon.
« Regardez, j'ai l'autre pantoufle, »
dit-elle en brandissant le deuxième soulier sous les yeux émerveillés du grand-duc. On connaît la suite de l'histoire, les superbes mariés, tout à leur bonheur, dévalant le grand tapis rouge du château pour monter dans le carrosse blanc qui les conduirait à l'église. Le happy end, et comme on le dit si bien dans les contes, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.